Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, on s'intéresse à quatre lettres à l'origine de nombreux mots, IADA. IA comme intelligence artificielle et DA comme droit d'auteur. Quatre lettres qui ne s'entendent pas toujours et qui s'entremêlent en générant de nouvelles problématiques. Il sera donc temps de remettre les points sur les I pour mieux comprendre ce que le droit nous dit et ce qu'il ne nous dit pas. Point de suspension. À la une de la presse, les tribunes de créateurs inquiets abondent, qu'ils soient artistes visuels, romanciers ou journalistes, tout le monde s'inquiète de ces IA génératives qui puisent dans leurs œuvres sans leur donner de monnaie d'échange. Des inquiétudes qui se transforment parfois en plaintes, comme aux États-Unis où des artistes dénoncent un pillage. Comment faire respecter le droit à la propriété intellectuelle? Comment le droit américain et européen protège les artistes et globalement les acteurs de la culture, secteur précaire par nature? Comment légiférer dans un contexte d'innovation technologique constant où la loi a souvent quelques trains de retard face à l'usage? Au-delà des aspects législatifs, ne faudrait-il pas repenser le modèle économique qui sous-tend l'exploitation des œuvres à l'ère numérique, comme ce fut le cas lors du développement du streaming? En voilà une idée. Beaucoup de questions et trois invités pour y répondre. En studio, à mes côtés, Mélanie Clément-Fontaine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure en droit privé à l'Université de Paris-Saclay et spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Vous pourrez nous expliquer comment ces modèles de langage s'entraînent sur des bases de données et nous parler du statut de ces images générées par l'IA et en quoi leur usage peut être considéré en violation du droit d'auteur. En studio toujours, Thierry Thuot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller d'État, plus précisément directeur de la section d'intérieur du Conseil d'État, et vous avez l'an dernier coordonné un rapport sur l'intelligence artificielle, une étude qui plaide pour la conduite d'une stratégie de l'IA résolument ambitieuse. Vous pourrez revenir sur les droits fondamentaux spoliés des auteurs et évoquer la difficulté de légiférer sur la technologie en raison de la vitesse de l'innovation. En duplex, très rapidement, on va aussi partir du côté de Marseille et plus exactement des studios de France Bleu Provence. Pierre Ciot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, photographe et président de la SAIF, la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe. Vous pourrez nous parler de l'usage déjà généralisé de l'intelligence artificielle dans la pratique des photojournalistes, ne serait-ce que par Photoshop. Et selon vous, il est possible d'exiger plus de garanties et de transparence auprès des acteurs de l'IA générative en s'appuyant sur le droit existant. C'est vrai qu'il est là, ce droit. Au programme également, une chronique de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama. Marcus nous expliquera comment la poésie peut être un remède pour le futur, et Juliette Deveau nous livrera au présent les nouvelles d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes s'écoute en direct ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde sur la chaîne Twitch de France Culture. Oui, on peut le dire, c'est parti.
ChatGPT, c'est l'outil qui déchaîne les passions.
Est-ce que aujourd'hui, cette intelligence artificielle est en train de nous échapper et de nous menacer?
Nous pensons que l'intervention réglementaire des gouvernements va être cruciale pour limiter les risques liés à des modèles de plus en plus puissants.
L'intelligence artificielle générative n'est pas créative. Elle réagence des contenus préexistants.
Un logiciel comme le populaire DALL-E a été en amont alimenté, entraîné par des dizaines de milliers d'images dont toutes ne sont pas libres de droit.
Et ces contenus, ils ont été produits par quelqu'un, par des artistes.
Alors je crois que j'ai rendez-vous avec Vincent Van Gogh.
Oui, bien sûr, il vous attend.
Quelle est votre peinture préférée ?
Je pourrais mentionner mon tableau intitulé « La nuit étoilée » qui représente le ciel nocturne au-dessus de Saint-Rémy de Provence.
C'est un sujet extrêmement important et sans doute l'un des plus importants que nous ayons à traiter dans l'espace, ce que j'appelle l'espace informationnel.
Et donc dans les mois et les années qui viennent, il nous faudra trouver une manière de faire en sorte que celles et ceux dont les contenus sont utilisés par les intelligences artificielles pour générer des contenus nouveaux puissent être dûment rétribués.
Et on va commencer cette émission, comme souvent, par un point de définition avec vous, Mélanie Clément-Fontaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement d'une IA générative pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cet outil qui est maintenant rentré quand même dans nos usages, et surtout comment elle utilise de la donnée?
Alors bon, je vais le définir cette notion d'un point de vue du juriste, parce que je ne suis pas
ingénieur
en IA. Ce que l'on vise par un système d'intelligence artificielle, c'est un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie et qui peut, de manière implicite ou explicite, générer des résultats telles que des prédictions ou des recommandations ou des décisions qui influencent les environnements physiques et virtuels. Donc à partir de cette définition très générale qui est posée dans le projet d'IA Act, eh bien on peut aussi y inclure l'IA générative qui a pour fonction en fait de générer du contenu sous forme d'images, de photographies, de sons à partir de traitements de données.
À partir de traitements de données, vous avez cité justement des outils d'intelligence artificielle générative de l'image. On peut citer DALL-E, on peut citer Midjourney. Est-ce que, en tant que photographe, que photojournaliste, Pierre Sotte, vous utilisez au quotidien ces outils de l'intelligence artificielle, même si je sais qu'il y a plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. Quel est le cas pratique pour vous dans votre métier ?
Alors non, j'utilise pas. Ça, j'utilise pas et j'en vois pas l'utilité. En tout cas pour l'intelligence artificielle générative. Ce que vous avez mentionné ou ce qui a été mentionné lors des petits briefs là sur l'apport qu'apporte l'intelligence artificielle sur les appareils photo, par exemple, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. L'appareil photo reste un appareil photo, même s'il est bourré d'électronique et qui nous aide à la conception, mais en tout cas, il ne nous remplace pas.
Il ne remplace pas, mais j'ai cité par exemple Photoshop ou d'autres outils technologiques qui sont finalement des sortes d'auxiliaires techniques, technologiques que là, vous utilisez, j'imagine, vous et vos confrères, peut-être pas au quotidien, mais de manière très fréquente.
Comme vous utilisez l'intelligence artificielle quand vous montez dans votre voiture ou quand vous téléphonez. Donc c'est vous qui restez maître de la conversation téléphonique ou de la conduite de votre voiture, encore en tout cas pour l'instant. Donc là, dans un appareil photo, c'est pareil. L'apport de l'intelligence artificielle qu'il y a dans l'outil, l'outil reste un outil et après on en fera ce que moi, être humain, je vais en faire. Alors que les robots tels qu'on les voit sur l'intelligence artificielle générative, à ce moment-là, l'intervention de l'homme, elle n'y est plus. C'est uniquement... une personne qui va dicter quelques mots, quelques lignes, quelques impromptes, comme on dit, pour arriver à une image finalement qui souvent existe déjà.
Alors là, Pierre Sotte, vous attaquez fort, puisque vous posez une question justement du geste créatif, du geste artistique dans l'usage justement du prompt. Pour rappeler un prompt, c'est donc, on va dire, des éléments textuels de commande, c'est-à-dire que c'est l'humain qui va demander à la machine de réaliser justement un visuel. Et on peut quand même considérer que l'humain qui essaye, qui tâtonne, qui retravaille justement avec ses prompts, participe peut-être plus activement que simplement en demandant une seule image avec un résultat. Il y a quand même un travail peut-être un peu plus précis. Mélanie Clément-Fontaine, vous souhaitiez réagir ? Et après, je donne bien sûr la parole à Thierry Thuot.
Oui, la question de la créativité à partir d'une IA se pose, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exclue de facto. Simplement, on va vérifier quelle a été la part de créativité, justement, et donc l'apport humain dans cette créativité. Vous avez parlé des prompts, donc c'est guider finalement la production, ce qui va être généré. Et ce prompt, il est essentiel. Et généralement, c'est une série de prompts qui permet d'arriver à un certain résultat. Et puis ensuite, il y a la sélection de ces résultats et éventuellement la recombinaison de ces résultats.
Voilà, et c'est toute la question justement de savoir quand on a une image qui est le fruit d'un travail, donc de parfois de plusieurs heures, de plusieurs jours avec une machine, quelle est la part qui revient à l'humain, à la création, et donc derrière la question des droits d'auteur qui sont potentiellement rattachés à la création de cette image. On aura l'occasion d'en reparler, mais peut-être d'un point de vue plus général, Thierry Thuot, le Conseil d'État, je rappelle, vous êtes Conseiller d'État rendu donc un rapport l'an dernier sur l'intelligence artificielle, vous en avez été le coordinateur. En quoi une institution justement comme le Conseil d'État est-elle, pourquoi s'est-elle saisie finalement de cette question l'an dernier de l'intelligence artificielle, même si je crois que l'intelligence artificielle générative n'est pas forcément mentionnée dans le rapport ?
Alors, il y a une réponse de premier degré, on s'en est saisi parce que le Premier ministre nous avait demandé de travailler sur la question, parce que le Conseil d'État, dans ses missions, outre être juge et le Conseil du gouvernement pour la rédaction des textes, c'est aussi une sorte de bureau d'études, de laboratoire, dans lequel, par des rapports, nous essayons d'éclairer l'avenir de l'action publique sur un plan administratif, sans définir les politiques publiques, mais en essayant de montrer leur cadre. Pour l'IA, on est clairement à un tournant pour les administrations. Elles ont commencé depuis déjà assez longtemps, mais un peu en ordre dispersé à recourir à l'IA. Il y a des cas qu'on connaît bien, la manière dont le fisc essaye de repérer les piscines en interprétant les photos. Il y a des cas qu'on connaît beaucoup moins bien, comme le traitement massif de demandes qui sont pré-instruites. Les cartes grises qu'on vous délivre, c'est l'IA qui vous les donne. Et ce que nous voulions, c'était regarder au moment où finit de se négocier le cadre juridique européen, à quelles conditions l'administration pouvait utilement se servir de l'IA. Et les quelques mots de débat qu'on a déjà eu ensemble en en répondant à vos questions, montre qu'on a deux questions sous-jacentes tout à fait essentielles, qui est la maîtrise humaine, à quelle fin est-ce qu'on veut se servir de l'IA ? Et on voit bien que, pour les images, la réaction d'un photoreporteur professionnel, c'est pourquoi ne pas s'en servir si c'est utile ? À quelle fin le fait-on ? Pour prendre un exemple dans l'actualité récente, vous avez vu qu'on vient de découvrir qu'une des vidéos virales de la campagne législative slovaque, c'était le patron de l'opposition en train d'échanger sur comment manipuler le vote homme pour faire plus de voix pour l'opposition. Et c'était une IA qui avait mis des mots sur, avec son accent et sa voix sur d'autres images en les déformant, pour faire croire qu'il était en train de manipuler le vote homme. Le reporter d'image qu'il avait filmé n'avait jamais eu cette idée-là. C'est l'intention qui compte, l'implication humaine. Le deuxième sous-jacent de notre débat, très clairement, au-delà de la protection du droit moral de l'auteur, c'est une question de chaîne de valeur, d'économie. La photo, c'est aussi une ressource, pas seulement pour l'information, c'est aussi une valeur économique. Qui va s'emparer de la valeur ? Et ce que nous voulions éclairer dans le rapport du Conseil d'État, c'était tous ces enjeux-là, qui sont à la fois humains, économiques, sociaux.
Très bien. Mélanie Clément-Fontaine, pour essayer, et après, bien sûr, Pierre Siot peut intervenir quand il le souhaite, et je lui donnerai la parole dans un instant, pour essayer de bien comprendre comment ces intelligences artificielles génératives parviennent justement à puiser dans ces données, et comprendre pourquoi ces données ne sont pas finalement protégées. Je crois qu'à l'origine de cette spoliation, même si c'est un jugement de valeur, il s'agit de la politique d'ouverture des données à l'ère numérique, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la distinction peut-être entre données numériques de l'esprit et données numériques tout court, et comprendre que là, il y a peut-être une faille qui a été exploitée justement par ces acteurs.
Alors, on est effectivement depuis depuis 2016, on a une série de textes qui tend, à un niveau européen, qui tend à favoriser la circulation des données, l'utilisation des données, l'accessibilité des données. Et dans ces textes qui portent sur les données à caractère personnel ou les données non personnelles ou les données publiques ou les données en général, on ne distingue pas selon que la source relève du droit de la propriété intellectuelle et plus spécialement du droit d'auteur ou ne relève pas de ce droit. Et donc ce corpus juridique qui tend à faciliter l'accès et la réutilisation de ces données n'a pas été articulé avec les dispositions du droit d'auteur. Alors pourquoi on s'est plongé dans cette volonté de rendre accessibles ces données, c'est aussi, alors c'est sans doute pour soutenir l'économie de l'IA, le développement de l'IA, parce que on est dans des circonstances de grande concurrence au niveau mondial, mais aussi c'est pour accentuer la visibilité culturelle, parce que il faut avoir conscience que c'est IA, ou l'usage que l'on fait des contenus en ligne se fait à partir de ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, si c'est que en langue anglaise ou c'est que de sources de certaines cultures, eh bien, voyez le biais énorme que ça crée.
Non, mais pour bien comprendre, c'est-à-dire la loi en l'occurrence ne fait pas de distinction entre une donnée numérique qui va être, je sais pas, par exemple, une photo qui n'est pas soumise au droit d'auteur, une donnée, je sais pas, peu importe, avec une photo que je pourrais faire moi, dont je pourrais être propriétaire. C'est-à-dire c'est considéré comme une donnée comme une autre.
Alors, bien sûr que ces textes sont précédés d'un exposé du contexte dans lequel ils sont pris, et il est toujours mentionné que ces dispositions sont prises en conformité et dans le respect des droits fondamentaux, dont la propriété intellectuelle. Mais il n'est pas dit à l'intérieur de ces textes comment on va procéder pour respecter les droits d'auteur. On a été même plus loin dans la directive droits d'auteur, on a introduit une exception qu'on a appelée la fouille de données qui permet...
Là, vous parlez de la directive européenne de 2019 ?
2019, tout à fait, qui donc est notre cadre européen du droit d'auteur. Et dans cette directive, on a introduit une exception. Alors l'exception, ça permet en fait de faire usage d'une œuvre sans avoir à demander l'autorisation de l'auteur. Et cette exception s'appelle la fouille de données et va permettre en fait de faire un usage des textes et des données en ligne sans avoir à demander l'autorisation de l'auteur. Et cette exception, elle a été pensée d'abord pour favoriser la recherche publique, en disant il faut que les chercheurs puissent faire
la autant, circulation voilà. des connaissances et de la données, qui est le propre même de l'utopie d'Internet, finalement.
Exactement. Et donc, ça a été introduit dans ce sens-là et discuté dans ce sens-là. Et puis, un peu de façon rapide, ça a été, il y a un nouvel article qui a été introduit qui prévoit ça dans tous les cas. Sauf si l'auteur s'y oppose. Mais comment s'opposer finalement au traitement de ces données dès lors qu'on a mis en ligne sa création ?
Et voilà, et là on parle bien de la directive européenne de 2019, à une époque où évidemment les intelligences génératives étaient peut-être en fabrication, en laboratoire, mais n'étaient pas de toute évidence sur le marché. C'est peut-être pour ça que ça n'avait pas été pensé. Pierre Siot.
Oui, je voudrais rebondir là sur cette directive de 2019 parce qu'effectivement, c'est l'article 4 de cette directive qui parle de fouilles de texte à l'origine à des fins de recherche pédagogique. Et donc c'est une exception comme on en connaît nous dans le droit français, hein, dans le code de la propriété intellectuelle. Mais comme vous l'avez dit, quand cette directive a été pondue, les IA génératives n'existaient pas. Et de toute façon, cet article 4 de la directive s'assortissait aussi de la possibilité pour un auteur de faire ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire de dire que moi, par exemple, moi, Pierre Siot, je veux pas que mes photos soient utilisées à des fins de recherche dans un truc et que donc, il faut qu'il le respecte. Or, aujourd'hui, on est arrivé à un degré de technologie qui fait que, un, c'est possible que les robots voient que j'ai dit non par des systèmes de métadonnées et donc il faut aller vers ça et je pense que les gens qui développent l'intelligence artificielle générative, ils sont en capacité aujourd'hui, quand ils ont créé une œuvre, de pouvoir, ce qu'on exige, d'avoir la liste de tous les documents qu'ils ont utilisés pour la création de cette œuvre. C'est ce qu'on appelle l'autorisation. Et là, l'auteur, même si moi j'ai un tout petit bout de photo dans une photo qui a été reconstruite, il faut que je puisse dire non, je veux pas, oui, je veux. Et derrière va se poser le principe de la rémunération, qui est un principe général, où il y a de la valeur qui va être créée avec ces images, et il est normal que les auteurs à la base aient aussi une rémunération équitable par rapport à ça, quoi.
Mais là on arrive, excusez-moi, à un point vraiment épineux de la question, c'est-à-dire que dans ce que j'ai compris du fonctionnement
épineux, d'une intelligence... mais aussi vital pour nous, hein.
Et l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce que je veux dire, ouais, c'est que de ce que j'ai compris du fonctionnement de l'intelligence artificielle générative, comme vous le dites, une photo va être créée, mais on a peut-être pris de la vôtre, de votre œuvre, un pixel, un soupçon, un reflet, une lumière, un ingrédient minime. Donc, déjà, comment vous pouvez savoir que cette intelligence artificielle générative utilise vos données, donc vos œuvres, et comment vous pouvez savoir dans le résultat qui en est fait, qu'elle s'en est servie? C'est très compliqué tout de même. C'est presque la question de la traçabilité, là, qui se joue.
C'est bien la question que l'on pose et que quand dans les items qu'on pose nous à la société d'auteurs, comme l'ensemble des sociétés d'auteurs de tous les secteurs confondus de la création, c'est que oui, il faut que quand on crée une image, ils soient en capacité de nous donner le catalogue de ceux qu'ils ont puisé. Et ça, ils peuvent le faire. On a eu des discussions avec des ingénieurs de l'IA qui disent qu'aujourd'hui la technologie peut permettre de dire oui, il y a un micropixel de Pierre Siot dans cette photo. Est-ce qu'il est d'accord ou est-ce qu'il n'est pas d'accord. Et surtout, ce qu'on veut, c'est qu'en amont, alors, il y a deux problèmes. C'est ce qui va se passer demain et ce qui s'est passé hier. Pour ce qui s'est passé demain, il faut que absolument, moi, je puisse dire non, je veux pas que mes photos soient sous quelque forme que ce soit utilisées par l'intelligence artificielle. Et le robot, il doit pouvoir reconnaître à travers les métadonnées, à travers la carte d'identité de la photographie, juste en disant, ben oui, non, je veux de l'IA, oui, non, je veux pas. Et il faut que les robots puissent le faire. Et ensuite, il va falloir aussi résoudre le problème de toutes les utilisations illicites qui ont été faites depuis la création de ces robots là, Chap machin et je sais plus quoi.
Vous respectez même pas le droit d'auteur de la marque de ChatGPT en tronquant justement son nom, mais c'est de bonne guerre justement, Pierre Siot. Juste, Mélanie Clément Fontaine, vous souhaitiez réagir?
Oui, alors ça soulève plusieurs questions. La première, est-ce qu'il y a véritablement usage de l'œuvre qui contredirait le droit de la propriété intellectuelle? Autrement dit, est-ce qu'il y a reproduction, représentation lorsque on utilise une IA et que cette IA va puiser dans ses fonds? La Cour de justice de l'Union européenne en 2019 avait dit que lorsque dans le résultat, les œuvres originelles ne sont pas reconnaissables, eh bien, il n'y a pas eu atteinte au droit de la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, il y a un débat sur cette question. Si on admet qu'il y a effectivement atteinte au droit de la propriété intellectuelle et qu'on reconnaît à l'auteur le droit de s'opposer à ce qu'il y ait un tel usage, techniquement, moi, je ne suis pas, encore une fois, ingénieur, mais j'ai, de par mes échanges, l'intuition que ça va être assez compliqué. Mmh. Et ça va être aussi compliqué que de lister tout ce qui a été utilisé pour générer un résultat. Alors, bon, c'est des débats qu'on aura, mais je crains qu'on n'arrive même pas à ce débat-là si l'on considère qu'il n'y a pas atteinte aux droits d'auteur du fait simplement d'aller...
D'aller piocher à droite à gauche, et puis après tout dépend ce qu'on fait de cette situation. Thierry Thuot.
Je crois qu'il faut qu'on, pour qu'on nous comprenne bien tous, qu'on replace ça dans le contexte général de la façon dont l'IA se développe et dont l'accès à la donnée s'est développé. La question de l'atteinte aux images, elle ne se pose que dans une variété d'IA, qui est l'IA qu'on appelle auto-apprenante, qui se fonde sur les données d'apprentissage. L'IA symbolique est une autre branche qui sert beaucoup moins aujourd'hui, mais qui garde son utilité et qui peut-être viendra à meilleure fortune, n'en a pas besoin. Se servir de données d'apprentissage, ça consiste, pour ChatGPT, puisqu'on parle de la générative, à lire tous les romans de Balzac et tous ceux de Proust et à continuer avec la totalité des collections du Monde, du Figaro, de Libération, de l'Humanité et de la Croix. J'espère que j'en ai pas oublié pour rester équilibré. Pour se dire à quoi ressemble une phrase française d'annonce d'un titre de presse. Ces journaux, évidemment, ils sont faits pour être lus. Et les journalistes sont en général contents quand on les lit. Le problème est que à aucun moment on a pu prévoir jusqu'à présent que cette lecture elle servirait à fabriquer autre chose. On admettait jusqu'à présent que pour faire une encyclopédie on se serve d'extraits de journaux, que pour écrire un livre d'histoire on se serve d'extraits de journaux.
Qui était d'ailleurs sourcé à cet endroit-là.
On les sourçait et puis il y avait le droit de copie limité, donc on maîtrisait à peu près. Aujourd'hui, des paysannes mexicaines pour $1 par jour sont chargées de lire des recueils d'images et de les indexer en disant chien-chat ou étoile-lune, etc. Et elles peuvent en faire à peu près n'importe quoi. Et d'ailleurs, elles en font à peu près n'importe quoi à la demande des entreprises américaines. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que c'est un usage qui n'avait pas été prévu, qui n'avait pas été autorisé, qui n'avait même pas été envisagé. Et poser la question en termes de propriété et de droit d'auteur, c'est encore appliquer des mécanismes conceptuels et juridiques de l'ancien monde à quelque chose qui n'a juste absolument rien à voir. Je vais prendre un exemple, je fais un détour, si vous le permettez, par la médecine. Vous allez passer un scanner. Aujourd'hui, on peut souhaiter vivement que ce soit un moteur d'intelligence artificielle qui interprète. Il est en général un peu plus sûr qu'un regard humain. C'est assez triste, mais c'est comme ça. Et vous allez vous donner la photo de vos cellules, de votre squelette. Qui est propriétaire de ces données-là? Est-ce que c'est vous? Parce que c'est difficile à imaginer quand même, vous n'avez rien fabriqué en dehors d'être le corps passé dans le scanner. Est-ce que c'est le laborantin qui administre, l'ingénieur qui a programmé la machine, le fabricant de la machine, celui qui fabrique l'analyse d'image, la firme d'analyse, le fabricant du logiciel, on peut continuer comme ça.
Oui, mais si c'est mon corps, a priori, j'en la suis question, propriétaire, comme de mes données biométriques.
Non, justement, dans le droit, aujourd'hui, vous n'êtes pas propriétaire d'autre corps, vous ne pouvez pas le vendre, vous ne pouvez pas le débiter en rondelles, vous ne pouvez pas le louer, encore que.
Mais est-ce qu'on peut le vendre à ma place pour autant?
Non, eh bien justement, c'est toute la question. Nous sommes à nouveau devant un vide juridique. Nous avons une chaîne de valeur. Nous savons que les gens qui ont ces données-là, qui en gros sont les gros industriels du soin, vont faire beaucoup d'argent. Aux dépens de la sécurité sociale, aux dépens de l'hôpital, aux dépens des individus. C'est ce débat-là que nous avons aussi avec les images de presse. Nous avons une économie de la presse, de l'image, des photographes, des entreprises de presse, des bibliothèques, des universités. Et puis tout d'un coup, cette économie est complètement bouleversée. Ce que nous devons faire, mais c'est devant nous, c'est inventer autre chose que le droit de propriété. On ne va pas pouvoir continuer à considérer que la photo, c'est une table ou une chaise. C'est comme données d'apprentissage, comme objet de manipulation, comme lieu de fabrication d'une valeur, quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'il faut qu'on
donc
qu'on
c'est une donc c'est une réinvention, c'est-à-dire que Pierre Siott, est-ce que vous par exemple vous considérez que le droit existant, s'il était appliqué, serait suffisant pour faire respecter justement les droits d'auteur, ou alors est-ce que vous partagez cette idée qu'il faut réinventer quelque chose?
Alors moi depuis que je suis photographe, je suis né avec la photographie telle qu'elle est maintenant, telle qu'elle est défendue par le code de la propriété intellectuelle qui a évolué en 85. Et depuis, on essaye de l'appliquer. Et ce que j'entends, moi, en tant que responsable d'une société d'auteurs ou d'organisation professionnelle, c'est que à chaque fois, on nous dit qu'il faut aller de l'avant. À chaque fois, on nous dit que cette histoire de droit d'auteur, c'est un frein au développement. Que etc. Mais en même temps, c'est notre gagne-pain. En même temps, c'est avec ça, et il n'y a pas d'autre solution que les photographes dans ce pays y vivent. Et au-delà de la question économique telle qu'elle est posée, là, on peut comprendre que oui, il faut aller dans un nouveau monde, il faut aller de l'avant, il faut supprimer les photographes, il faut supprimer les appareils photo.
C'est pas ce qui a été dit. Non, là, on parlait aller de l'avant sur le droit, Pierre Siott.
Depuis que j'ai commencé la photographie, on me dit, vous nous emmerdez avec vos droits d'auteur, on va les supprimer de la part des patrons de presse, parce que c'est eux qui payent.
Mais là, vous parlez d'interlocuteurs qui ne sont pas autour du studio, Pierre Siott.
Pardon. Non, je crois qu'il faut être très clair. La question, elle est d'abord, avant d'être une question économique, et je pense qu'on est totalement d'accord, avant d'être une question économique, c'est une question de liberté de communication. Et la photo, comme le texte, c'est un support d'une liberté fondamentale. La Déclaration des droits de l'homme dit c'est le bien le plus précieux. La première chose à faire, c'est préserver cette liberté-là. Donc c'est préserver l'autonomie créatrice du photographe, sa liberté de diffusion et l'intégrité de l'œuvre photographique. Toute photo de presse est une œuvre dont il faut préserver l'intégrité, éviter la manipulation. Et le traiter comme une donnée d'apprentissage, c'est déjà une manipulation. Il faut l'interdire, il faut la régir, il faut la rendre possible.
L'interdire, vous dites ?
Oui, l'interdire dans les conditions où elle se fait aujourd'hui, parce que elle se fait au mépris de tout droit. C'est le Far West. On est dans la même situation que dans l'ouverture des lignes de chemin de fer vers la Californie. Il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'Indiens, il n'y a rien, il y a juste la loi du profit. Et ça, c'est totalement inacceptable. La première chose à faire, c'est la liberté de communication. La deuxième, c'est la chaîne de valeur. Mais que je sois clairement compris, il s'agit que les vrais créateurs de la valeur soient rémunérés et pas les pilleurs qui sont les firmes d'intelligence artificielle.
Pierre Sott, on est d'accord là sur cette dernière idée ?
Ah ben complètement d'accord, et je voudrais rajouter que en termes de photographie, au-delà de la valeur de la création, il se pose en particulier sur la photographie de presse un problème de déontologie. C'est-à-dire que moi, je n'accepte absolument pas l'idée qu'une machine elle va aller fabriquer des photographies pour parler d'un événement qui pourrait exister. Je prends un exemple. Ben, les gens, ils se noient dans la Méditerranée pour traverser la Méditerranée en bateau. C'est difficile d'aller faire des photos là-bas. Alors, on peut pas les faire. On va les créer avec l'intelligence artificielle. C'est extrêmement dangereux. C'est une suspicion par rapport à l'information et une dérive qui sera complètement inacceptable pour le public qui va se désintéresser de la presse, qui ne saura jamais si elle regarde une photo qui est réelle ou si c'est une photo qui est fabriquée par une machine.
Vous avez raison, mais juste en l'espèce, quand vous parlez justement de cette photo qui serait générée par une intelligence artificielle pour faire état du drame en Méditerranée, ce n'est pas fait à l'heure actuelle dans les médias français. Je veux dire que si tant est qu'une photo comme celle-ci serait publiée, il me semble qu'il faut qu'elle soit indiquée comme telle.
Ah ben ça, c'est le minimum. Que c'est une des demandes que nous avons, c'est la transparence. La transparence vis-à-vis des auteurs sur l'utilisation des bouts d'images qui sont faits et la transparence vis-à-vis du public pour dire que cette image a été fabriquée par un ordinateur et qu'elle n'est en rien un événement réel. Mais quand vous dites que c'est pas utilisé, il y a eu des tentatives par des journalistes qui ont voulu faire des coups, puisque bon, on est un métier où on essaye de se distinguer, et il y a un photographe américain de l'agence Magnum qui a refait toute une série de photographies sur ce qu'aurait pu être l'exode des exilés cubains vers les États-Unis. Et donc ces photos sont extrêmement réalistes et extrêmement... elles auraient pu exister, mais elles n'ont pas existé.
D'où la responsabilité après derrière
photos, de... On fait un dessin. Hein.
D'où la responsabilité de l'éditeur,
ça pose une question, peut-être qu'on reviendra pour avoir ce débat-là, qui est l'immense différence entre un média avec sa rédaction, son éthique,
sa déontologie,
et puis à côté, les réseaux sociaux et le no man's land de validation de l'information que ça représente. Là aussi, il y a des réponses balbutiantes, le DMA, le DSA.
Digital Services Act qui est entré en vigueur juste en août dernier à l'échelle européenne.
La campagne législative slovaque qui vient de se dérouler montre, hélas, que pour l'instant, ça ne fonctionne absolument pas.
Mélanie Clément-Fontaine.
Oui, alors là, il y a un consensus hein, sur la question de la transparence et de l'information. On a un cadre légal sur les fausses nouvelles. On a parlé beaucoup de ça ces dernières années. Je crois que sur ce point, la mise en œuvre est compliquée, mais en revanche, la volonté de la société, la volonté politique est unanime sur le fait qu'il va falloir être très attentif à ça. Pour en revenir sur le droit d'auteur, la question de la rémunération de l'auteur, évidemment, est cruciale. Simplement, les solutions qui reposent, et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit précédemment, sur un cadre légal qui a été pensé au lendemain de la Révolution française, n'a pas de sens. Alors, il y a un projet, je ne sais pas si vous avez vu la proposition de loi sur le sujet.
Vous parlez en France de 8 députés.
Oui. Alors, il préconise une taxe globale en disant, on va percevoir une taxe qui sera redistribuée aux auteurs. Bon, ça, c'est une solution qui revient régulièrement.
C'est un modèle déjà existant dans d'autres secteurs.
Hein. Et beaucoup quand la technique s'y mêle. Par exemple, pour les copies privées, à un moment, on ne peut plus contrôler la copie, eh bien, on va percevoir une taxe sur tous les appareils qui permettent de reproduire des textes, par exemple.
Très bien. Mais juste, on est donc bien d'accord qu'il y avait une loi qui a été mise en place dans l'ancien monde, puisqu'il s'est passé en quelques années, il y a eu une révolution. On voit bien que cette loi ne fonctionne pas. Il y a des trous dans la raquette, il y a des complications. Il y a donc bien une conscience qu'il y a un manquement et j'imagine déjà une réflexion pour essayer de la modifier, pour faire en sorte que justement Pierre Ciot et les autres ne se sentent pas démunis.
Oui, il y a une réflexion. Après, est-ce qu'il y a des réponses tout de go? Je ne crois pas. Et c'est ça demande peut-être de faire le deuil d'un ancien système pour un nouveau cadre légal. Je suis pas sûre qu'on soit encore prêt à cela, surtout qu'on vient d'adopter quand même une loi, une directive en 2019. C'est pas vieux. On veut pas revenir sur cette directive, mais sans doute qu'il va falloir penser les choses différemment.
Voilà, je crois que tout a été dit quand on dit que 2019, c'est pas vieux pour une directive, mais c'est encore un monde pour la technologie. Mmh. Et ce n'est pas si vieux pour la musique est éternelle, dont ce titre, My Lomo Enemy, Olivia Ruiz, dans Le Meilleur des Mondes.
France Culture, Le Meilleur des Mondes, François Saltiel.
Je loue des chambres d'hôtel aux étages élevés. Je fixe les quelqu'un de ma fenêtre avant de les capturer. Je les habille de peut-être, c'est l'attraction de les sceller. Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour le développer. Je loue des chambres d'hôtel en étages élevés. J'aime les minois facétieux, leurs sourires écorchés. Maladroits, paresseux, fragiles ou réprimés. Je photographie des gens heureux. Sur le papier, leur rayon se voit. Je ne trouve rien de plus précieux que cette étincelle ornée de soie. Mais si j'entreaperçois au travers de ma tête embuée l'ombre d'un orage au loin dans une maisonnée, je tire les rideaux et grimpe sur le toit. Regardez les photos, l'homo de toi et moi. Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour me le développer. Papier, leur rayon se voit. Je ne trouve rien de plus précieux que cette étincelle ornée de soie.
Olivia Ruiz dans Le Meilleur des Mondes avec une chanson adaptée puisqu'il s'agit de My Lomo Enemy. Et la Lomo, c'est bien sûr la photographie dont on parle ce soir dans Le Meilleur des Mondes. Et tout de suite, c'est le journal d'un monde meilleur.
Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Deveau.
Et on commence ce journal avec l'ouverture ce mardi 3 octobre d'un procès historique aux États-Unis. Sam Bankman-Fried, fondateur de la plateforme de crypto-monnaie FTX, a été extrait de sa cellule pour comparaître devant le tribunal de New York pour un procès qui devrait durer 6 semaines. Si vous avez loupé ce feuilleton de la Silicon Valley, petit rappel des faits, Sam Bankman-Fried, présenté comme le Mozart de la crypto, a vu son destin basculer l'année dernière alors que sa plateforme était valorisée plus de 32 milliards de dollars en 2022. L'entreprise a brutalement fait faillite lorsque le grand public a découvert que ce succès reposait sur un habile montage financier. SBF détournait l'argent de ses clients pour le réinvestir dans des paris très risqués aux Bahamas. Un cas de fraude qui n'est pas sans rappeler le système de Ponzi de Bernard Madoff, qui fut condamné par la justice américaine à une peine exceptionnelle de 150 ans de prison en 2009. Et il y a fort à parier que le procès de Sam Bankman-Fried soit aussi une occasion pour l'instance judiciaire américaine de rappeler le pouvoir pouvoir de la loi face à la toute-puissance présumée des entrepreneurs de la tech, SBF encourt une peine de 110 ans de prison.
Et voilà, on parle toujours de la loi donc dans votre journal comme dans l'émission, Juliette, et on retourne en France où le gouvernement a annoncé des mesures pour lutter contre le gaspillage électronique.
Et oui, alors que les problèmes de surchauffe de l'iPhone 15 étaient au cœur des discussions ces derniers jours, une annonce gouvernementale est passée, elle, relativement inaperçue. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé l'extension du bonus réparation pour les smartphones à partir du 1er janvier 2024. Cette initiative s'inscrit dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui prévoit depuis décembre 2022 des aides pour inciter les ménages à faire réparer leurs appareils électroniques plutôt que d'en changer. Et alors que le renouvellement de smartphones compte pour beaucoup dans l'empreinte environnementale numérique française, ceci n'était étonnamment pas inclus dans cette aide à la réparation. Une anomalie qui devrait donc être corrigée début 2024. Le gouvernement se penche en ce moment sur les modalités d'allocation de cette aide et sur son montant. Une bataille de plus menée contre l'obsolescence programmée, mais la guerre continue.
Et le journal aussi continue et il se termine d'ailleurs avec une technologie innovante pour permettre aux personnes malentendantes de ressentir ou sentir la musique.
Et oui, c'est le New York Times qui attire notre attention sur une révolution dans le monde de la musique qui permettrait d'inclure les personnes sourdes et malentendantes. Une société californienne a développé une combinaison haptique pour permettre de sentir les vibrations de la musique. Derrière ce terme peu évocateur de combinaison haptique se cachent des éléments aussi simples que des bracelets et un sac à dos qui s'attachent avec des sangles autour de la cage thoracique et qui envoie des vibrations au corps lorsque résonnent certains sons ou, dans ce cas précis, certaines notes de musique. Cette société, du nom de Not Impossible, propose des forfaits auprès des organisateurs d'événements musicaux comme des concerts ou des DJ sets, forfaits comprenant la mise à disposition d'une centaine de combinaisons et le déploiement d'une équipe sur place pour équiper les personnes qui le souhaitent. Une preuve que la technologie et l'innovation peuvent être mises au service de l'application effective du principe d'inclusivité.
Merci Juliette pour ces bonnes nouvelles. Et il en faut dans le meilleur des mondes lorsqu'on parle de technologie. Une chronique à retrouver évidemment en podcast sur l'application Radio France. Dans le meilleur des mondes ce soir, nous sommes toujours en compagnie de Thierry Thuot, conseiller d'État, directeur de la section intérieure du Conseil d'État et qui a coordonné un rapport l'an dernier autour de l'intelligence artificielle. Il en est question d'intelligence artificielle et de son lien, de la manière dont elle bouleverse le droit d'auteur. Mélanie Clément-Fontaine nous en parle à professeur en droit privé à l'université de Paris-Saclay, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Et nous sommes en duplex du côté de Marseille avec un photojournaliste, mais également un président de la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe qui s'appelle Pierre Ciotte. Et on essaie de mieux comprendre justement comment ce droit a été pensé à une certaine époque, comment la technologie est en train de le bouleverser, comment il faut peut-être imaginer d'autres solutions pour tenter de préserver eh bien, toute une industrie, un modèle et peut-être même Thierry Thuot, préserver l'exception culturelle. Est-ce que l'exception culturelle française est une spécificité? Est-ce que la France, tout simplement, n'a pas un rôle à jouer dans le concert mondial pour prolonger cette exception culturelle sur le terrain qui nous importe ce soir, celui de la photographie bouleversée par ces intelligences artificielles génératives?
Alors, indéniablement, parce que ça fait peut-être un petit peu français avec un complexe obsidional d'excellence et de comparaison avec l'Europe, mais il faut pas oublier que dans le domaine du numérique, de la défense des droits, de la propriété, les droits équivalents aux droits de propriété, etc., nous avons depuis 30 ou 40 ans toujours été des pionniers en Europe. Nous avons exporté notre système. La loi informatique et liberté a inspiré les grandes directives européennes. Ce que nous avons inventé en matière de droits de propriété équivalents a été également généralisé au niveau européen. Il en ira sans doute de même pour l'intelligence artificielle. Avant que l'exception culturelle soit la défense du film français, de la chanson française, de l'image française, du style français, c'est d'abord une question de souveraineté et de sécurité. Je vais prendre un exemple qui a fait beaucoup de bruit dans les médias. Vous savez que pour les Jeux Olympiques, on a prévu d'expérimenter le maintien de l'ordre par des caméras assistées par intelligence artificielle. Alors on a beaucoup fantasmé là-dessus parce que la réalité est beaucoup plus prosaïque. On va faire une grande cérémonie d'ouverture sur la Seine. Vous imaginez qu'un million de personnes au bord de l'eau, c'est dangereux. Heureusement, la préfecture de police a des caméras de surveillance des foules. Mais il y en a 1500. Alors, où on met 1500 agents derrière et ça fait 1500 de moins pour protéger la population contre tous les risques, ou bien on demande à l'intelligence artificielle de signaler quoi ? Bah, ce qu'une liste a prévu, l'apparition d'une arme ou un mouvement de foule anormal. Si vous apprenez à ce système à détecter les mouvements de foule, avec, comme c'est fait aujourd'hui par plusieurs prestataires privés qui ont déjà mis en œuvre ce genre de système, avec des images de foule japonaises, mexicaines ou péruviennes, vous n'informez pas la police sur ce que fait la foule en France. Mmh. Et c'est d'abord ça, l'intégrité éthique des données d'apprentissage, c'est d'abord une question de sécurité pour toutes les fois où l'information du public ou la prise de décision publique repose sur ces images. Alors après, oui, bien sûr, on peut aller plus loin et rappeler que nos images qui ont été produites et fabriquées notamment avec des subventions publiques dans certains cas, ou qui en tout état de cause appartiennent à ceux qui les ont créées, qui ont fait le geste créateur. Si nous voulons en préserver l'intégrité et éviter la convergence à laquelle nous porte la numérisation du monde vers un gloubi-boulga mondialiste à coloration Disneyland, il faut évidemment que nous prenions des précautions. Ces précautions-là, elles sont dans mon esprit d'abord des précautions d'ordre éthique et esthétique avant d'être économiques.
Vous avez fait un détour hein, par la vidéosurveillance, Pierre Thur, ce qui me permet de faire un détour aussi pour vous renvoyer sur notre émission de la semaine dernière qui lui aurait été entièrement consacrée. Pierre Thur, peut-être une question simple. Là, vous, alors on a entendu justement Thierry Thur nous parler de cette exception culturelle française et de ce rôle pionnier. Vous, en tant que créateur, en tant que photojournaliste, comment vous vous sentez-vous aujourd'hui, et quelle est votre vision, justement, on parlait d'une vision positive avec le journal Juliette Devaux, comment vous vous sentez, comment vous voyez les choses?
Moi, je vois les choses comme on le voyait par le passé, je suis désolé, quoi. Je veux dire, je ne vois pas, encore une fois, à part les améliorations techniques qu'ils peuvent apporter, moi, je vais continuer de photographier comme j'ai toujours photographié, et bien évidemment que j'utilise du matériel de mon temps. Je n'ai pas une chambre encore qu'il y a des photographes qui le font, que l'on traîne à dos de mulet. Mais ce qui compte dans une photographie quand on l'a fait, c'est pas l'appareillage, c'est pas la technologie, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cette photographie, quelle photographie on veut faire, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut montrer. Et en matière de presse et de journalisme, c'est ce qu'on appelle, on documente un événement. Et moi, pour documenter un événement, il faut que j'aille sur place. Il faut que je voie les gens de chair et d'os, il faut que je voie les paysages, et il ne faut pas que je sois derrière mon ordinateur à essayer de récupérer ces gens et ces montagnes qui ont été faites par d'autres photographes à d'autres moments dans le monde entier, et prendre des petits bouts de chaque image pour, au final, reconstituer et faire quoi.
Et donc, pour que vous continuiez justement à faire le travail comme vous l'entendez, il faut que le fruit de votre travail soit récompensé, soit protégé, et c'est là où on vient, et on revient à notre question du droit d'auteur. Mélanie Clément-Fontaine, vous avez évoqué avant la musique cette idée d'une taxe, enfin, qui a été reprise, donc proposée par ces députés. Mais justement, comment on peut réimaginer d'autres solutions? Donc, il y a la taxe, il y a la licence, mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui être le plus opérationnel techniquement? Parce qu'on voit bien qu'on est confronté après à des dispositifs techniques qui permettent pas toujours de rendre ces propositions acceptables techniquement ou possibles.
Alors, il y a la rémunération des auteurs, il y a aussi ne pas créer une concurrence déloyale à ces auteurs. Alors ça pose la question de protéger ou non ce qui va être produit à l'aide d'IA ou ce qui va être produit avec une IA totalement autonome. Et c'est dans la proposition de loi, ils préconisent que si une IA on génère à partir d'une IA de manière complètement autonome quelque chose, les droits sur le résultat appartiendraient aux auteurs dont les œuvres ont été utilisées. Alors, outre le fait qu'il va falloir les identifier,
ce qui peuvent être très nombreux,
et qui peuvent être très nombreux, cela me semble assez périlleux. En revanche, on peut peut-être se demander s'il faut protéger ce qui a été produit de la sorte. Et donc, ne protéger que lorsqu'il y a une empreinte humaine, finalement, dans la création, c'est-à-dire on définit une œuvre comme le résultat de l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc ça, c'est un critère qu'on a toujours su appliquer, et il faudrait peut-être le repenser à l'ère de l'IA, de sorte que ce qui a été produit par l'IA ne fasse pas concurrence aux créatrices et aux créateurs d'aujourd'hui.
Et on revient là justement à la question du statut aussi d'une image qui a pu être créée par une intelligence artificielle en collaboration justement avec un humain. Cette image-là, elle peut aussi avoir des droits. elle peut avoir des droits dans le sens où on peut, parce qu'il me semble qu'il y a une différence justement entre un modèle peut-être américain et un modèle français concernant ce statut de l'image.
Alors ça a été, il y a eu une affaire avec Christina Castanova sur ses photographies. L'US Copyright Office avait accordé une protection à cette photographie en 2022 jusqu'à apprendre qu'elle avait créé à l'aide d'une IA. Et il a retiré sa protection en 2023. Alors, moi, j'aime beaucoup cet exemple parce que c'est vraiment l'application du test de Turing. C'est-à-dire que on ne fait plus la distinction entre ce qui aurait été produit avec l'intervention humaine ou sans l'intervention humaine. Bon. Ça suppose qu'il va falloir faire preuve de transparence et imposer d'indiquer que la production a été faite, réalisée à partir d'une IA sans intervention humaine ou avec intervention humaine ou que c'est une création humaine, ça me semble important, ne serait-ce que par un droit à l'information et un droit à la transparence.
Je crois que il y a la question évidemment du maintien du consentement à l'usage. Il faut qu'on soit prudent avec l'efficacité de cet instrument parce que, comme vous le savez, tout le droit des données aujourd'hui est fondé sur le consentement et tous les jours, vous cliquez oui sur votre téléphone pour accéder plus vite et vous avez donné votre consentement sans vous rendre compte des horreurs que vous faites en acceptant ça. Il faut que le consentement soit possible, qu'il soit éclairé et autonome. Alors, il y a plusieurs pistes de réflexion dans ce qui a été évoqué. Il y a, par exemple, la préservation de l'intégrité de l'image et une forme de labellisation avec de l'humain dedans ou avec de l'IA dedans ou le mélange des deux, pourquoi pas. Encore faut-il que ce soit respecté et comme vous le savez, il y a beaucoup d'États un peu voyous dans le monde, les États-Unis et la Chine en font partie et beaucoup d'autres encore. Il y a des solutions techniques nouvelles qu'on n'a pas encore explorées. Si demain les photojournalistes déposent leurs images dans une blockchain, on peut en assurer l'intégrité complète. Si demain nous nous assurons que nous arrivons à verrouiller techniquement les images, pas seulement d'ailleurs celles des journalistes, les nôtres aussi, parce que nous avons ou nous aussi un droit à l'image de notre image reproduite par d'autres, nous pouvons espérer en faire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les vieux concepts de propriété traditionnelle patinent un peu sur la technique. On peut le revitaliser avec d'autres techniques. Et réfléchir à cela, là encore, c'est aller très loin si on va dans le sens des droits humains. Là encore, permettez-moi un détour vers un sujet qui n'a rien à voir.
Léger détour, hein.
Les réfugiés politiques ont souvent du mal à faire la preuve de leur persécution initiale. Ils disent « ma propriété a été violée ». Imaginez que demain, chacun d'entre nous ait un patrimoine numérique garanti internationalement, avec une sorte de coffre-fort que un système onusien à l'échelle mondiale garantirait. On change complètement la donne sur qui nous sommes, ce de quoi on peut nous exproprier, la manière dont on peut usurper notre identité ou nous prêter des comportements qui ne sont pas les nôtres. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille. Nous avons tous désormais, qu'on le veuille ou non, une deuxième personnalité qui est un peu numérique en plus de notre réalité.
Une identité numérique, effectivement.
Et à l'heure actuelle, aucun texte n'en garantit l'intégrité et l'intégrité patrimoniale comme l'intégrité sur le plan éthique. C'est dans ce sens-là, sans doute, qu'il faut qu'on cherche aussi, parce que c'est le sens de la liberté.
Je rebondis quand même, parce que un conseiller d'État qui propose la blockchain comme étant potentiellement une solution pour préserver, pour tracer justement les images, c'est quand même assez intéressant à noter. Vous en pensez quoi de la blockchain, Pierre Thiotte?
Oui, c'est ce qu'on demande, hein. Quand nous on parle d'autorisation et qu'il y ait un système, alors je sais pas si c'est la blockchain ou autre chose, mais en tout cas ce que nous on sait pour discuter avec un des plus gros du marché, puisqu'on a un accord avec lui, c'est que c'est possible. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est possible aujourd'hui sur... Alors je parle moi des photos, hein, je parle pas de l'identité numérique.
Parlons des photos, restons sur les photos bien sûr.
Voilà, je parle des photos et sur la photographie, ce qu'on appelle IA génératif là, il est possible sur ça, chaque image qui a été créée, de faire un répertoire de ce qui a été utilisé et de faire un repérage des auteurs qui potentiellement pourraient être rémunérés. Juste une parenthèse, quand vous parlez de taxes, le mot il n'est pas approprié, il faut parler de redevance. Parce que en fait, une taxe, c'est un impôt, donc on ne ferait pas payer des impôts à ces sociétés. On demanderait une redevance à ces sociétés pour les utilisations, une dérogation aux droits d'auteur et pour utiliser les photos des autres auteurs pour créer leurs propres images. Et enfin, je voudrais dire un mot sur le droit d'auteur de ces nouveaux supports. si on peut les appeler comme ça, la question elle est loin d'être tranchée, et si on s'en réfère au droit français, il va falloir faire des changements législatifs importants, parce que le droit français aujourd'hui, comme l'a dit Mélanie Clément, il est basé sur l'empreinte de la personnalité. Et je peux vous dire que moi, en tant que photographe, on bataille contre ça depuis une trentaine d'années, parce que toutes nos photos ne sont pas originales aux yeux du juge. Et que je vois mal comment un juge aujourd'hui, dans une procédure, alors que hier, il refusait de reconnaître l'originalité d'une photo de sport au prétexte qu'elle avait été faite en rafale avec un appareil photo à moteur, et que cette photo qui va lui être présentée, nouvelle de sport, a été construite complètement par un ordinateur, je vois pas comment il va pouvoir avaliser cette notion d'empreinte de la personnalité de l'auteur sur celle-ci.
Pardon Pierre Sotte, ça m'avait échappé. Pierre Sotte, pardon, juste une précision. Le fait que vous... Pourquoi il n'y a pas de reconnaissance de l'originalité de votre photo que vous avez fait vous-même derrière un appareil? Alors certes, peut-être 10 personnes l'ont fait
mais
en même temps
que
vous,
la question de l'originalité, elle est au cœur... La question de l'originalité, elle est au cœur du droit français, de le truc, c'est que pour que la photo soit protégée dans ce pays, qu'elle soit soumise au code de la propriété intellectuelle, elle doit présenter un caractère d'originalité et qui est ce qu'on appelle l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et là, quand il y a un conflit avec un diffuseur qui a pris une photo sans me demander mon consentement et à qui je vais aller demander des droits, va me dire « mais votre photo, elle n'est pas originale ». C'est pas moi qui vais dire qu'elle n'est pas originale, ma photo. Quelle que soit la qualité de ma photo, lui, il va décrier que celle-ci n'est pas originale parce que ça va lui permettre de ne pas avoir à payer des droits et elle tombe dans une espèce de no man's land où elle n'a plus aucun droit. Et aujourd'hui, c'est seuls les juges dans le cas de procédure qui vont décider que telle ou telle photo est originale ou ne l'est pas et qu'on peut poursuivre la discussion au niveau du tribunal pour savoir si on adopte une indemnité ou pas. Et donc ça, c'est quand même fondamental parce que il va falloir changer ça. Et enfin, moi, après, je suis un simple photographe, mais le rapport du CSPLA de janvier 2022 pointe cette question-là. Et c'est le CSPLA qui dit que pour que l'on reconnaisse du droit d'auteur à des œuvres de l'IA générative, il va falloir modifier la loi et modifier la loi de manière fondamentale.
Mélanie Clément
Ensuite, sur la rémunération, je m'excuse d'être insistant, mais sur la rémunération, c'est possible aujourd'hui de le faire. Nous, on le fait avec un moteur de recherche, et alors que quand on avait entamé les discussions il y a 10 ans, c'était impossible que ce moteur de recherche qui prenait nos photographies et qui créait de la valeur avec, aujourd'hui, il partage cette valeur. Et donc, c'est vers ce sens qu'il faut aller. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut réparer ce qui a été fait par l'intelligence artificielle générative et que les millions de photos qui ont été créées avec des bouts de photos d'auteurs, il faut aller vers un système de rémunération comme une redevance, enfin ce que vous appelez vous une taxe.
Oui, non, mais gardons le terme de redevance comme un peu sur la logique de la SACEM. Voilà, on a bien compris qu'on va garder le terme de redevance. C'était intéressant que vous nous expliquiez cette question de photo originale. Malheureusement, on n'aura pas le temps de développer sur cette question-là, mais ça sera sans doute l'occasion de s'y replonger. Et on voit bien qu'il peut y avoir aussi des voisinages vers peut-être le droit voisin que vous avez peut-être évoqué en creux pour imaginer plus de protection. Mon voisin, justement, qui vient d'arriver dans ce studio, c'est Marcus Dupont-Bénard. Bonsoir, Marcus.
Bonsoir, François.
Qui va nous offrir un peu de poésie, Marcus.
Et je viens pour réchauffer les cœurs.
Allez-y.
Quand on parle de futur, vous le savez, on parle rarement de poésie. Mais je vais vous prouver que c'est compatible. Alors, on démarre ce voyage, eh bien, dans le passé, au 19e siècle. La poétesse américaine Emily Dickinson commence l'un de ses poèmes avec ce vers. Le futur ne s'exprime jamais. Une drôle d'expression quand on sait que Dickinson, qui n'a jamais vraiment publié de son vivant malgré 1700 poèmes, est considéré aujourd'hui, 200 ans plus tard, comme l'une des plus grandes poétesses américaines. Alors elle était avant-gardiste, sur la forme comme sur le fond. Elle était d'une infinie modernité. D'une telle modernité d'ailleurs qu'une série télé récente lui a été consacrée, avec un choix artistique surprenant. Insérer volontairement des anachronismes, des éléments magiques ou surréalistes, donner vie à sa poésie en mettant en scène la modernité d'Emily Dickinson. C'est une série en 3 saisons diffusée par Apple TV+. Voici un extrait.
C'est bien de toi de venir à une fête en ayant l'air d'un raton laveur.
Je ne suis pas venue pour la fête. Allez, il faut que je sache ce que Emily, tu as pensé de mes poèmes. Dis-le-moi.
J'ai adoré tes poèmes. J'aime toujours tes poèmes, mais...
Je ne peux plus être ta seule lectrice, Emily. Tu dois partager tes écrits avec le monde.
Alors dans la série, la mort est interprétée par un rappeur, Wiz Khalifa. Il n'est pas rare non plus que la musique en fond soit de la pop ou de l'électro. Il y a même un épisode où Dickinson voyage dans l'avenir et découvre sa propre célébrité posthume. Je peux vous dire que c'est assez émouvant. La frontière entre les époques, en fait, est floutée. Qu'on soit dans le passé, qu'on soit ici et maintenant, qu'on soit en 2050, il n'y a pas de contexte où Emily Dickinson n'est pas dans l'air du temps.
Alors qu'en est-il de la poésie dans notre monde ultra connecté ?
La poésie n'est pas absente des réseaux sociaux. Au contraire, les poètes et les poétesses vont par exemple publier leurs poèmes ou des extraits sur Instagram sous forme de petits cartons de texte. C'est ce que fait plusieurs fois par semaine Cécile Coulon, par exemple, l'une des poétesses françaises les plus célèbres aujourd'hui.
Et là, il est toujours question de droit d'auteur.
Toujours. On reste dans le thème de l'émission. Mais figurez-vous que sur les réseaux, on trouve aussi de nouvelles figures qui émergent en créant directement sur ces plateformes. Sur TikTok, par exemple, du haut de sa vingtaine d'années, Whitney Hanson se filme face caméra pour prononcer les poèmes qu'elle écrit.
No one ever looks at the stars and wishes they were gone. No one ever asks the ocean why it stayed so long. No one wishes the moon away. They don't ask for it to disappear. No one is unkind to the sun. We know it's needed here.
Je sais ce que vous vous dites. De la poésie lue sur TikTok, allez, quelques milliers d'abonnés tout au plus. Non, 1,9 million. C'est son nombre d'abonnés. Dans ses poèmes, elle parle de guérison, de santé mentale, de rupture amoureuse, d'angoisse. Bref, elle écrit de la poésie en vers libre et touche les gens avec ses textes. Résultat, du virtuel à la réalité en librairie, elle a déjà publié plusieurs recueils chez Random Penguin House, l'une des plus grandes maisons d'édition au monde. Donc, voilà. Peut-être que l'avenir appartient à la poésie. En tout cas, quand vous pensez au futur, pensez aussi à Emily Dickinson. Pensez aux poétesses actuelles et pensez à toutes celles à venir.
Merci beaucoup, Marcus Dupont-Bénard, de nous avoir fait part de votre poésie pour rester évidemment dans la création et pour peut-être terminer sur une note poétique, Thierry Thuot. Est-ce que finalement la leçon de toute cette histoire-là, c'est de continuer à cultiver l'imprévisibilité des bouleversements ?
Non seulement la cultiver, mais l'affronter joyeusement et avec beaucoup de confiance, parce que je suis absolument persuadé que nous avons, nous Français et nous Européens, les moyens de maîtriser notre destin en la matière. Alors c'est pas un poète que je vais citer pour finir, mais un philosophe, Clément Rosset. La joie est toujours plus profonde que la tristesse. C'est vrai aussi pour l'intelligence artificielle.
Qui est plus profonde que la tristesse ou que de la joie. En tout cas, j'espère que cette émission vous en a procuré de la joie et aussi du savoir sur une question complexe. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné, Pierre Sott et Mélanie, Clément Fontaine. On continuera à explorer ces grandes questions du droit d'auteur en perpétuel mouvement et surtout l'intelligence artificielle. Je remercie à la préparation de cette émission Juliette Deveau, accompagnée par notre stagiaire Béatrice Grégoire, à la réalisation ce soir Perret Legras et ses droits d'auteur, et à la technique son d'Alia, ainsi qu'à l'image Flavien Andrézia, car oui, cette émission peut se regarder sur la chaîne Twitch de France Culture. On se retrouve pour le meilleur des mondes la semaine prochaine à la même heure, et pour ma part dans la matinale de France Culture lundi dès 8h52.